Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europa 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre grande vadrouille du dimanche au programme Grand Reportage, Décryptage. Allons voir comment on vit ailleurs. Avec une première étape en Galice, en Espagne, dans une ville qui s'est affranchie progressivement des voitures depuis 20 ans. À Pontevedra, les enfants sortent en récré dans la rue, les gens marchent et les commerces tournent. On va décortiquer les secrets d'une vraie réussite. Nous irons retrouver Virginie Salmen à Cannes. Elle a arpenté le marché international du cinéma. Plus de 110 pays, 12 000 professionnels. Que viennent-ils chercher sur la croisette? Avec Mathieu Bock, nous retournerons au Venezuela pour découvrir, alors que la crise humanitaire dure dans le temps, la situation particulière de centaines de milliers d'enfants dont les parents ont quitté le pays et qui peinent à se construire avec ce sentiment d'abandon. On vous racontera aussi la révolte des fleurs. Ça se passe au Japon. De manière élégante et déterminée, des femmes japonaises se rebiffent contre la grande clémence accordée aux criminels sexuels. Nicolas Caro nous plongera dans l'univers d'un romancier argentin et Joseph Chovanec dans celui de la BD. Et alors, il sera 14h. Les carnets du monde sont ouverts, direction le nord de l'Espagne. En ce jour de vote, nous ne parlerons pas des élections européennes, c'est la règle. Mais sachez que nos voisins espagnols votent aussi aujourd'hui pour élire leur maire. C'est l'occasion pour nous de découvrir une ville qui réélit le sien sans discontinuer depuis 20 ans. Pontevedra est située en Galice, à la pointe ouest de l'Espagne, à quelques kilomètres du Portugal. 84 000 habitants, c'est une ville de la taille d'Avignon, par exemple. Et Pontevedra a une particularité, très encombrée jusqu'à la fin des années 90. Sous l'impulsion de son maire, elle est progressivement devenue une ville sans voiture. Et la voilà plus respirable et surtout beaucoup plus aimable pour ses habitants et notamment les enfants. C'est parti pour un grand bol d'air. Reportage d'Henri de la Guérie.
Comme chaque jour, Juan Carlos, la cinquantaine, prend sa voiture pour rejoindre Pontevedra, là où il travaille. Le trajet dure 20 minutes, il habite à la campagne. La Galice a un surnom, la Bretagne espagnole. C'est très vert et très humide, il pleut ce matin. Il est 8h45, Juan gare sa voiture à l'entrée de la ville.
Je laisse mon véhicule ici dans un parking périphérique de la ville et je finis en marchant. La distance est courte, en 5 minutes je suis au travail.
Les quatre grands parkings de délestage sont tous gratuits. Depuis 25 ans, Juan Carlos est le responsable du service de nettoyage de la ville. Il a connu l'époque des encombrements et de ces voitures qui tournaient pendant des heures à la recherche d'une place libre.
Je me souviens, par ici, c'était rempli de voitures mal garées. On ne pouvait pas circuler. J'étais le conducteur du camion. Il y avait deux employés. Parfois, on était obligé de déplacer les voitures pour passer. Sinon, on restait bloqué.
Aujourd'hui, le camion passe sans problème et le travail est fait deux fois plus vite. Dans les rues, c'est le calme qui règne. La voie publique est occupée par des bancs et des terrasses de café. On ne croise que des gens à pied ou à vélo. C'est en 1999 que les voitures ont peu à peu été chassées du centre-ville. La mairie a commencé par supprimer toutes les places de stationnement à l'air libre, tout en créant les quatre grands parkings. Les panneaux de signalisation, les passages piétons et les feux tricolores ont été retirés. Aujourd'hui, la circulation n'est pas complètement interdite, mais elle est réservée aux véhicules d'urgence, aux services publics et aux livreurs. En milieu de matinée, alors que le soleil est revenu, Annabella promène sa petite fille en poussette dans la grande rue commerçante.
Les voitures passaient ici. Et maintenant, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, il n'y en a plus. Les trottoirs sont très larges et la chaussée est au même niveau. On peut marcher tranquillement. Les enfants peuvent même se promener tout seuls. Il n'y a plus aucun danger.
À Pontevedra, il n'y a pas non plus de bus ou de tramway. Résultat, 70% des déplacements se font à pied. L'homme à l'origine de cette révolution s'appelle Miguel Ancho Fernandez, architecte et maire depuis 20 ans. Il nous reçoit dans son bureau.
J'ouvre la fenêtre, on est au troisième étage et pourtant, on entend parler des gens dans la rue. Ce n'est pas normal dans une ville de nos jours.
Il y a donc beaucoup moins de bruit, on respire mieux. En 20 ans, les émissions de CO2 ont diminué de 60%. Il n'y a plus d'accidents. Mais ce dont le maire est le plus fier, c'est la renaissance du centre-ville.
Quand le projet a démarré, on a demandé à un libraire s'il était favorable à la piétonnisation. Il a répondu « Aucune voiture n'est jamais entrée dans ma librairie pour acheter un livre ». C'est vrai. Une fois qu'on a rendu les rues aux piétons, les boutiques et les commerces de proximité ont multiplié leurs ventes par trois. Les gens achètent quand ils sont à pied. Nous, on n'est pas favorables aux grands centres commerciaux. Ils ne font que vider les villes. Ça n'a pas de sens de sortir de la ville, prendre la voiture pour acheter une baguette, pour revenir ensuite dans le centre. Ça ne fait qu'appauvrir l'espace public. Les petits commerces, ça dynamise le centre-ville.
Et ça attire du monde. Pontevedra est la seule ville de Galice qui gagne chaque année des habitants. À quelques centaines de mètres de la mairie, vers 11h30 devant l'entrée d'une école, Justo Fernandez délimite un grand espace sur la voie publique à l'aide d'un ruban de chantier. C'est le directeur de l'école.
Là, on est sur une place en plein centre de Pontevedra. 400 enfants de maternelle et de primaire sont en train de sortir. C'est le moment de la récréation. Et ici, c'est leur cours. Avant, ils allaient dans un espace de récréation à l'intérieur. C'était un désastre car les enfants ne pouvaient pas mettre le nez dehors. Ils ne pouvaient pas se défouler, ils ne faisaient pas de sport, c'était très compliqué. Alors que là, on a noté une nette amélioration. Quand les enfants retournent en classe, ils sont beaucoup plus détendus.
En expulsant les voitures, les habitants et les plus petits d'entre eux, les enfants, se sont appropriés l'espace public. Cette cour de récréation dans la rue, c'est d'ailleurs leur idée. Plusieurs écoles de Pontevedra ont fait la même chose pour le maire. Piétonniser la ville, c'est aussi une manière d'intégrer les plus jeunes et les rendre autonomes.
On a un énorme problème dans toutes les grandes villes. Il a été calculé que les enfants ne sont à l'air libre qu'entre une demi-heure et une heure par jour. C'est hallucinant. Ça ne peut pas continuer comme ça. Un enfant se mouille à peine et déjà on s'inquiète. C'est la génération du siège bébé. Cette surprotection stupide fait que l'enfant s'éveille moins vite. Un enfant qui va à l'école à pied, marche avec ses amis, il parle avec eux, il apprend à connaître l'espace et l'endroit où il vit, il a de meilleurs résultats à l'école. Et puis, ceux qui viennent en voiture arrivent toujours en retard. L'enfant qui se responsabilise, se lève, s'habille, prend son petit déjeuner, va à pied à l'école, il arrive toujours à l'heure.
Au café, dans la rue et dans les commerces, il y a bien quelques habitants qui râlent contre certaines difficultés engendrées par cette politique en faveur des piétons. Mais personne ne regrette l'époque des voitures. Dans cette région, pourtant classée à droite, le maire, issu d'une formation régionaliste de gauche, a été réélu 4 fois de suite. Pontevedra, Henri de la Guérie, Europe 1.
Et voilà, et la cornemuse, oui, oui, c'est une musique du coin. Bonjour Henri de la Guérie.
Bonjour Sophie.
On vous retrouve en ligne de Barcelone. Je le disais, hein, outre le scrutin européen, les Espagnols votent aussi pour les municipales aujourd'hui. Le maire de Pontevedra se présente pour la 5e fois.
Oui, et il devrait être réélu car sa ville sans voiture est plébiscitée par les habitants. Et vous l'avez bien compris, hein, cela dépasse largement les clivages habituels gauche-droite. Pontevedra a été récompensée à plusieurs reprises. Elle a notamment reçu un prix de l'ONU. Cette ville est érigée aujourd'hui en modèle de développement urbain à travers le monde. L'équipe municipale travaille d'ailleurs avec la mairie de Paris. Alors évidemment, les proportions ne sont pas les mêmes, mais il y a beaucoup de choses exportables. Le maire Miguel Ancho Fernandez encourage en tout cas ses homologues en Europe à suivre son exemple.
Voilà ce que je recommande. Il faut faire preuve de courage pour se lancer dans ce projet. Parfois, les doutes ou les oppositions sont liés à certains privilèges. La voiture reste un signe extérieur de richesse et de puissance économique, mais lorsqu'on marche ensemble, on est tous sur un même pied d'égalité. En tout cas, cette peur de ne pas être réélu est irrationnelle. C'est l'inverse qui se produit.
Henri, l'exemple de Pontevedra est assez unique, même si en Espagne, les grandes villes commencent, elles aussi, à repousser les voitures hors de leur périmètre.
Oui, c'était clairement l'un des sujets de campagne de ces municipales. La capitale, Madrid, par exemple, elle est à 700 mètres d'altitude et les pics de pollution sont fréquents. La mairie a lancé, il y a 6 mois, Madrid Central. Seuls les riverains et les véhicules de service ont désormais le droit de circuler dans le centre. Ouais. C'est une zone de près de 500 hectares. Cela faisait hurler l'opposition qui pronostiquait une apocalypse. Mais en fait, la mesure a été bien acceptée et déjà, elle ne fait plus débat. À Barcelone également, des super îlots ont été mis en place. D'immenses pâtés de maisons rendus aux piétons, des squares, des tables de ping-pong, des tables de pique-nique ont été installées au milieu d'anciens carrefours. Et désormais, le dimanche, eh bien, les repas de famille ou les goûters d'anniversaire se font dans la rue.
Et cette politique anti-voiture, entre guillemets, ne concerne pas seulement les villes.
Un an, de plus en plus de sites touristiques et de plages notamment sont désormais inaccessibles en voiture. Formentera, aux Baléares, est allé un peu plus loin. Un quota de véhicules en circulation vient d'entrer en vigueur sur l'île. Enfin, Sophie, je vous donne ce dernier chiffre intéressant. Aujourd'hui, en Espagne, il y a presque deux fois moins de candidats au permis de conduire chez les 18-30 ans qu'il y a 15 ans. Alors, la crise est passée par là, bien sûr, mais pas seulement. De plus en plus de jeunes ne voient plus vraiment l'intérêt de conduire.
Deux fois moins, c'est pas rien. La place de la voiture en ville, c'est un sujet qui concerne le monde entier, évidemment. Et on va élargir un peu notre regard avec Benoît Hartmann, qui est en ligne avec nous. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes géographe et vous avez beaucoup travaillé sur cette question des mobilités et de la place de la voiture, notamment en ville. Vous venez d'écouter avec nous ce reportage sur Pontevedra, une ville où le changement est flagrant, bénéfique pour tous, hein, au-delà de la question essentielle de la pollution, on l'a entendu. La piétonnisation a favorisé le commerce, le vivre ensemble, c'est gagnant-gagnant. Mais on a envie de se dire quand même, c'est une ville d'un peu plus de 80 000 habitants, donc où il a été possible de créer ces parkings en périphérie, où il est possible de venir à pied, les distances sont assez réduites, hein, on l'a entendu. Et tout ça, c'est quasi impossible à imaginer pour une grosse ville comme Paris, par exemple. Donc on fait quoi dans ce cas-là ?
En fait, c'est vraiment exportable pour une grande partie parce que plus une ville est dense, plus c'est facile d'offrir des alternatives à l'auto solo, au déplacement que la plupart des gens font avec leur voiture, tout seul dans leur voiture. Par ailleurs, ils ont été pionniers, mais c'est une tendance générale. Ouais. C'est une tendance qui généralise dans la plupart des grandes capitales. On voit bien des secteurs piétons qui se développent de plus en plus.
Mais par exemple, très concrètement, le maire disait tout à l'heure que la voiture était un signe extérieur de richesse. Mais quand on pense, je reprends Paris, l'exemple de Paris, hein, les banlieusards qui viennent travailler, bah, ils ne roulent pas tous sur l'or loin de là. Il faut bien qu'ils posent leur voiture quelque part à un moment donné. Quelle solution on peut imaginer pour eux dans une grosse ville comme Paris ?
Bah, c'est évident, vous le disiez, si on n'a pas des parkings de délestement, bah, les gens ne peuvent pas laisser leur voiture dans de bonnes conditions.
Ah oui, mais on ne peut pas en créer en banlieue.
Le RER, mais si on sait le faire au bout des lignes de transport. C'est-à-dire que si on accepte une collaboration forte à l'échelle de l'Île-de-France, par exemple, entre les communes, on pourrait imaginer la ville de Paris qui collaborerait avec les communes de banlieue pour qu'il y ait des parkings qui soient créés conjointement de délestement au bout des lignes de transport en commun. Parce que ça, on sait faire. Mais par ailleurs, ça veut dire aussi qu'il faut accepter d'investir dans les transports en commun pour avoir une alternative qui soit une alternative fiable pour arriver à l'heure au boulot quand on prend les transports en commun et dans des conditions qui ne soient pas des conditions de bétaillère.
L'exemple de Berlin, est-ce que c'est un peu comparable aux îlots dont parlait Henri à Barcelone ?
Oui, en partie, mais en fait, ce qui se passe à Berlin, c'est sans doute la solution la plus efficace pour aller vers des villes sans voiture, à part pour les transports essentiels dont on ne peut pas se passer. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de mettre en place des zones à faible émission, ça s'appelle des low emission zones à l'échelle européenne. C'est-à-dire que plus il y a de population, donc plus il y a de population exposée à la pollution, moins les véhicules polluants ont le droit de circuler. Vous avez une petite puce RFID, comme les puces de géolocalisation dans les camions, dans votre voiture, qui identifie quel type de voiture vous avez et quel type de pollution vous émettez. Et en fonction de la pollution que ça émet, si vous êtes un vieux diesel, ben vous ne pouvez pas rentrer profond dans la ville.
Et si vous rentrez quand même
un véhicule électrique partagé, eh ben, vous rentrez profond dans la ville. Et si vous rentrez quand même, à cause de la puce, vous prenez une amende.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est extrêmement dissuasif.
Donc ça
vous
fonctionne.
Passez au feu. Et si vous rentrez dans la zone, eh ben, vous prenez une amende. Ça a extrêmement bien fonctionné. En moins de 10 ans, ils ont divisé par deux leur pollution urbaine.
En deux mots, Benoît Hartmann, à plus long terme, on commence à penser les villes différemment, sans voiture ?
Oui, il y a des villes sans voiture qui sont pensées ex nihilo, comme en Chine, où on est en train de penser des villes dès le début sans voiture, et ce qui évite le problème que nous, on a en Europe, c'est-à-dire de devoir corriger le fait d'habiter loin des lieux où on consomme et des lieux où on travaille. C'est en train de se faire, mais il ne faut pas imaginer que l'exemple chinois va pouvoir se généraliser, parce qu'on ne va pas pouvoir recréer des villes ex nihilo. Il va falloir transformer nos villes et accepter que, ben oui, comme on habite loin des endroits où on travaille, il nous faut des alternatives à la voiture solo.
Merci beaucoup de ces éléments de réflexion et de compréhension, Benoît Hartmann. Je rappelle que vous êtes géographe, spécialiste des questions de mobilité. Merci à vous.
Merci à vous.
Et merci Henri depuis Barcelone pour ce reportage inspirant sur Pontevedra. À très vite dans les carnets.
À bientôt Sophie.
Europe 1.
Et je vous propose maintenant d'aller au marché, mais un marché très spécial, le marché international du film qui avait lieu à Cannes pendant le festival. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Et c'est jusqu'à 14h hein, sur Europe 1. Le Festival de Cannes, c'est fini. Le palmarès a été annoncé hier soir. Sophie Larmoyer, mais Cannes, c'est aussi un marché.
Pendant cette quinzaine, il se passe beaucoup de choses sur la croisette en marge du festival. Depuis 60 ans, par exemple, Cannes accueille un immense marché international du film. 12 000 professionnels du cinéma réunis au Palais des Festivals. Des producteurs, des acheteurs, des programmateurs, des distributeurs. Et au milieu de tout ce monde, Virginie Salmen, envoyée spéciale d'Europe 1 au Festival de Cannes. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Votre marathon du tapis rouge est terminé, mais pour les carnets, vous avez prospecté avec votre micro ces derniers jours. Expliquez-nous ce qui se joue dans ce grand marché du film de Cannes.
Alors ça se passe au sous-sol, au niveau moins 1 du Palais des Festivals. Et là, alors vous avez des stands de presque tous les pays, 114 pays en tout. Ce sont des stands privés, hein, des distributeurs ou des vendeurs de films à l'international qui s'installent là pendant les 15 jours du festival, soit pour financer un film qui n'est encore qu'une idée ou vraiment le début d'un projet, soit pour acheter un film déjà terminé pour le diffuser dans certains pays. Ou encore, il y a des stands comme par exemple celui du Panama qui diffuse en boucle des images de paysages magnifiques sur un grand écran, des paysages de montagne, de sable fin, de désert, pour essayer d'attirer des tournages de films dans le pays. Et puis il y a aussi le décor, hein, évidemment, il y a des affiches de cinéma collées absolument partout, des films, des animés japonais, des romances, des films de bagarre, il y a toutes les couleurs et tous les styles.
Et ils sont tous pareils ces stands, ou ils ont des particularités suivant les pays, on essaye de faire un peu son pavillon?
Oui, bah oui, oui, bien sûr. Par exemple pour la Chine, c'est une mini pagode rouge dans laquelle on peut entrer et qui fait salle de réunion pour conclure des négociations. En baladant, je suis tombée sur le stand iranien assez officiel où toutes les femmes portaient le foulard islamique à l'iranienne. Et puis un peu plus loin, dans une autre travée, le stand des films iraniens aussi, mais indépendants, où aucune des vendeuses, pour le coup, n'était voilée.
Ouais, la politique s'invite aussi dans le marché.
Oui, absolument. Alors, un autre exemple justement de la politique pour la Chine, la réglementation sur les tournages est très changeante, volatile. La censure alors, se fait plus ou moins forte selon les années. Donc les films ont parfois du mal à se tourner. En ce moment par exemple, il est plus difficile pour les Chinois de sortir des devises. Donc les accords financiers sont parfois un peu bloqués. En Arabie Saoudite, en revanche, la tendance est plutôt à un léger desserrement de l'étau, nous dit Jérôme Paillard. Il est le directeur du marché du film et ça se sent ici à Cannes.
L'Arabie Saoudite, c'est différent. C'est un grand marché qui, alors jusqu'à l'année dernière, n'avait aucun cinéma. C'est en train de changer assez rapidement. L'Arabie Saoudite avait un pavillon l'année dernière. Pour des raisons politiques, je crois, ils n'en ont pas cette année. Mais ils annoncent un nouveau festival sur la mer Rouge. Et nous disent que l'année prochaine, de nouveau, ils souhaitent avoir un pavillon. En tout cas, ce qui est clair en Arabie Saoudite, c'est que c'est un grand marché, qu'il s'ouvre, qu'ils ont une volonté, en tout cas politique, de créer de l'activité cinématographique, notamment de tournage. Ils ont des lieux de tournage absolument exceptionnels. Donc oui, je pense que c'est effectivement un pays qui va être sûrement beaucoup plus présent dans les prochaines années.
Voilà, l'Arabie Saoudite fait donc partie des pays dont les paysages n'ont encore jamais été vus au cinéma. Ça existe.
Il y a des réalisateurs africains aussi qui commencent à monter pas mal de films, mais ils étaient là aussi.
Oui, alors la problématique pour eux, c'est de rentrer dans les codes du cinéma occidental, puisque ceux qui achètent sont des Occidentaux. Donc les financeurs européens, mais aussi Netflix, qui a acheté son tout premier film africain il y a juste 8 mois, un film du Nigeria. Olivier Pascal travaille dans le milieu du cinéma en Afrique depuis une quinzaine d'années, donc c'est un bon observateur. Il vient de créer l'AFAC, un site de formation pour les réalisateurs africains.
Un acteur comme Netflix ou même Canal+, ou Startime, les Chinois, ne vont aller acheter des films en Afrique que si ceux-ci répondent à une certaine codification du cinéma international, sans dévoyer bien évidemment la culture cinématographique du réalisateur ou du scénariste. Mais il faut néanmoins qu'il y ait une certaine compréhension des attentes du marché international. On ne peut pas par exemple faire des bandes-annonces de 4 ou 5 minutes comme le fait aujourd'hui Nollywood en amont de la projection de ses films. On peut pas, c'est très compliqué de vendre des films qui font plus de 2 heures. J'ai vu des films nigérians qui en font 4 et qui doivent du coup être réécrits, redécoupés ou post-produits à nouveau pour un marché international.
Voilà, Nollywood, hein, je précise, c'est l'immense industrie du cinéma au Nigeria, mais qui est une industrie essentiellement pour l'Afrique et les spectateurs africains. Alors, tout se décide là, Virginie, dans le marché, tout se signe là, sur ces stands?
Alors non, le marché, c'est un endroit un peu formel de rencontre pour les professionnels, mais il y a aussi les soirées cannoises. C'est ce que nous raconte Jill Chen, qui est à la tête des ventes internationales pour l'Institut du film de Taïwan.
Vous savez, il y a beaucoup de fêtes organisées par des distributeurs en parallèle du marché du film. Par exemple, nous, on est allés à la nuit coréenne, la nuit canadienne, la nuit américaine. Et dans ces soirées, on échange beaucoup d'informations. Et quand ils viennent sur notre stand, nous, quand on organise un rendez-vous, là, on leur montre nos tout derniers films et on se donne des infos sur le business du cinéma dans nos différents pays.
Donc les soirées, cette année, par exemple, la princesse de Thaïlande en personne est venue présider la Thai Night au Carlton. Elle espère décrocher évidemment l'intérêt de réalisateurs ou de producteurs pour qu'ils viennent tourner leurs films en Thaïlande. Et puis, il y en a qui préfèrent négocier autour d'un verre dans les palaces de Cannes ou d'Antibes. Mais ce que nous explique David Castellanos, qui est un vendeur international de films espagnols, c'est que même aujourd'hui, en 2019, eh bien, les bons deals se font de visu.
Vous avez besoin de savoir à qui vous vendez votre film et eux ont besoin de savoir à qui ils achètent. Quand vous parlez directement à quelqu'un pour une négociation, la personne est plus flexible, alors que par mail, à distance, ça peut être plus difficile. Je pense que ça rend le business plus fluide des deux côtés. On rencontre les gens en personne ici, mais avant l'ouverture du marché, il faut avoir préparé la rencontre, au moins un mois avant, pour avoir une chance d'avoir un rendez-vous ici. Les gens ont des agendas quasiment pleins avant même d'arriver, donc il faut avoir bien préparé le terrain.
Agenda encore plus chargé peut-être pour les nouveaux acteurs de ce marché, hein, les Netflix et Amazon, et toutes ces plateformes de vidéos en streaming. Ils sont une centaine cette année sur 12 000 participants au marché du film.
Et alors tous ces films, Virginie, à un moment ou à un autre, les acheteurs les visionnent ou pas ?
Ah bah oui, bien sûr. Il y a une trentaine de salles de projection, alors dans le marché et puis autour, hein, aussi dans les cinémas des petites rues, derrière le palais des festivals, ou bien parfois même dans des hôtels, on monte des salles de projection. Au tout début du marché d'ailleurs, c'était assez caractéristique dans les années 60, les distributeurs faisaient construire pour le festival de petites cabanes en bois avec un toit en toile pour permettre justement ces projections. Alors c'est moins foutraque qu'aujourd'hui, hein, c'était beaucoup plus organisé, certains diront même aseptisé.
Du moment que ce n'est pas aseptisé dans les salles obscures pour nous qui allons voir les films, tout va bien. Voilà. Merci beaucoup Virginie, merci pour ce coup de projecteur. Bon retour de Cannes.
Merci, à bientôt.
Europe 1.
Et du film, on passe au livre. Nicolas Caro nous recommande chaudement un roman argentin, une histoire de huis clos et d'écriture. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h24, l'heure de notre rendez-vous littérature étrangère, Sophie Larmoyer. Un livre dans le monde, c'est avec Nicolas Caro.
Il est de retour. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Semaine après semaine avec vous, on fait une sorte de tour du monde littéraire. Et aujourd'hui, on fait escale en Argentine.
Avec un roman très étonnant chez Sonatine, ça s'appelle Carnet clandestin, signé Nicolas Giacobone. C'est son premier roman, oui mais pas sa première histoire. Nicolas Giacobone est scénariste. Scénariste d'Alejandro Iñárritu, le cinéaste président du jury du Festival de Cannes cette année. Iñárritu, c'est The Revenant, Birdman ou Babel. Gros niveau.
Ah oui, quand même. Mais un scénario, ce n'est pas un roman.
Précisément. D'ailleurs, en général, quand on dit d'un roman, ça ferait un bon film, c'est que le livre est raté, selon moi. Mais là, c'est un vrai bon roman.
Et qu'est-ce que ça raconte ?
Ça commence un peu comme Misery de Stephen King. Pour ceux qui connaissent, Misery, c'est l'histoire d'un écrivain de roman à l'eau de rose, à succès, enfermé, prisonnier chez une lectrice psychopathe qui l'oblige à écrire la suite des aventures de son héroïne favorite. Là, dans Carnet clandestin, c'est le même point de départ, sauf que nous sommes à Buenos Aires et c'est un scénariste, Pablo Betances, qui est séquestré par un réalisateur, Santiago Salvatierra, le plus grand réalisateur d'Amérique latine.
Et il le retient prisonnier pour qu'il écrive un scénario.
C'est ça, mais pas n'importe quel scénario. Il veut un chef-d'œuvre et tant qu'il ne l'aura pas écrit, il ne sortira pas, c'est tout. Il vit sur un matelas dans la cave, il a un ordinateur et les œuvres de Borges. Juste un petit carré de lumière dans lequel il se place une heure par jour pour éviter les carences en vitamine D. Et ça fait 5 ans qu'il est là.
5 ans ? Ouais. Il est contraint ou il a accepté le scénariste ?
Ah bah il est contraint. Mais au début, je cite, « Le premier jour dans la cave, après avoir compris ce qui arrivait, après avoir parlementé pendant une heure, après l'avoir menacé de lui casser la gueule, je lui ai hurlé que jamais je n'écrirais rien pour lui, rien du tout, et que le mieux qu'il avait à faire, c'était encore de me buter. Et Santiago a sorti une arme, un revolver, il a mis une balle dans le barillet, puis il l'a fait tourner, il m'a visé, il a tiré, clic. Il a fait tourner le barillet, il m'a visé, il a tiré, clic, jusqu'à ce que je craque et que je me mette à sangloter. Alors Santiago s'est approché et il m'a enlacé et il m'a dit à l'oreille qu'ensemble, on allait faire de l'art.
En 5 ans, il n'a pas réussi à l'écrire, ce scénario ?
Ben, pas assez bien encore. Il passe sa journée à essayer d'écrire. Toutes les journées se ressemblent. Il commence à 6h du matin. À 7h20, Santiago descend pour travailler avec lui jusqu'à 13h. Il déjeune. Il s'y remet à 14h30 jusqu'à 19h30. À 20h, Norma, la bonne mexicaine, descend pour lui apporter son dîner. 22h45, il dort et ainsi de suite.
Mais donc le réalisateur participe à l'aventure.
Ben oui, enfin, il essaye parce qu'en fait, il est nul. Mais bon, Pablo est bien obligé de prendre ses remarques en compte. Ouais. Ça avance doucement, mais l'inspiration, ça ne se commande pas, évidemment. Ça ne se force pas, et c'est tout le sujet du roman. Marie Misando est l'éditrice du livre.
Je crois qu'en fait, il y a beaucoup de thématiques qui sont explorées dans ce livre. Il y a aussi cet enfermement dans la cave. Il peut être vu aussi comme une métaphore par rapport au processus créatif, l'angoisse de perdre ce don d'écriture et l'angoisse de la médiocrité. En tout cas, c'est un livre qui peut se lire à plusieurs niveaux, et c'est ça qui fait toute l'essence de ce roman. C'est une différente grille de lecture et toutes les thématiques abordées.
Et c'est une critique du milieu du cinéma, Nicolas ?
Complètement. Ouais. Nicolas Giacobone est scénariste, donc c'est une manière de dire on n'est pas des bêtes et la création, ouais, c'est pas une industrie. On n'écrit pas des scénarios sur commande avec des codes préétablis. Enfin, on peut éventuellement, mais ce ne sera jamais un chef-d'œuvre.
Et alors, ce roman, pour le coup, il est bien écrit ?
Ah oui. Et alors, ouais, moi, je ne suis pas spécialiste de l'espagnol d'Argentine, je l'admets, mais je n'ai pas senti de lourdeur dans la traduction, pas du tout. Ça coule comme si ça avait été écrit en français, Marie Misando.
La traductrice a fait un super travail de traduction, puisque Vanessa Capio, donc la traductrice, s'est traduite de l'argentin. Et l'argentin est une langue assez particulière, parce qu'on a beaucoup de répétitions, on répète beaucoup, on revient sur des termes, enfin, c'est une langue, enfin, c'est un écrit très parlé, et elle a su traduire ça remarquablement, c'est très bon travail.
On ne soulignera jamais assez ici l'importance de la traduction.
Fondamentale, et c'est donc Vanessa Capieux.
Voilà pour le roman de Nicolas Giacobone, Carnet clandestin chez Sonatine. Merci beaucoup Nicolas.
Merci Sophie.
Europe 1.
On ne change pas de continent. Dans quelques instants, c'est au Venezuela que je vous emmène. Situation toujours aussi catastrophique là-bas. Et surtout pour les enfants, beaucoup sont laissés par leurs parents qui émigrent.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec vous Sophie Larmoyer jusqu'à 14h. Et maintenant nous voici sur la côte septentrionale de l'Amérique du Sud, au Venezuela, toujours en proie à une double crise politique et économique.
L'hyperinflation, les pénuries de produits de base et de médicaments, les pannes d'électricité, les coupures d'eau. On vous a déjà raconté cette terrible situation sur Europe 1. Eh bien sur le plan de cette crise humanitaire, rien ne change, rien ne bouge. Et pour la population, c'est de plus en plus dur. Et beaucoup de Vénézuéliens partent, fuient le pays pour trouver un job ailleurs, trouver de l'argent à manger, pour essayer de faire vivre leur famille. Mais beaucoup partent sans leurs enfants. Et c'est à eux qu'on s'intéresse aujourd'hui dans les carnets. Ces enfants qui sont chez une tante, une grand-mère, voire des amis, et qui en souffrent. Mathieu Bock est allé à leur rencontre. Voici son reportage dans une banlieue de Caracas.
L'école est nichée au cœur du barrio Guaycaipuro, l'un des quartiers les plus dangereux de la ville, contrôlé par les gangs du narcotrafic. Les policiers ont perdu la bataille. Ils ont trouvé un arrangement tacite avec les trafiquants qui assurent la paix sociale et dealent en toute tranquillité. Pour aller en cours, les élèves doivent se faufiler entre les carcasses de voitures abandonnées et les poubelles qui jonchent les trottoirs. Leur école est enclavée entre deux immeubles en parpaing rouge. Pour entrer, il faut pousser un portail en fer surmonté de barbelés. À l'intérieur, les portes sont toutes en barreaux. Les couloirs étroits mènent à des salles de classe à moitié vides où le mobilier est scellé dans le béton. Cela ressemble à s'y méprendre à une prison d'où s'échappent des cris d'enfants. C'est ici que se rend tous les jours Lismal Calderon, une lycéenne de 17 ans qui termine sa formation en comptabilité. Avec son appareil dentaire et ses grosses baskets blanches, elle ressemble à tous les jeunes de son âge. Mais elle vit chez sa grand-mère avec ses petits frères et sœurs. Sa mère est partie au Chili il y a un an. Pas le choix, il n'y a plus assez de travail ici. Alors la jeune fille s'accroche, elle se force à venir à l'école, même si l'absence de sa mère la ronge chaque jour un peu plus.
C'est vrai que c'est très difficile à vivre que notre maman ne soit pas avec nous. Même si on habite avec notre grand-mère, c'est pas pareil. En fait, on n'avait jamais été séparés avant. J'ai beaucoup pleuré, surtout au début. Je suis vraiment triste depuis qu'elle est partie. Ça fait un an, mais j'arrive toujours pas à m'y faire. Alors j'essaie de tenir le coup en me disant qu'un jour ça ira mieux, qu'on sera réunis. J'attends de voir ce que Dieu va mettre sur notre chemin. J'essaie de parler à ma mère tous les jours sur WhatsApp, en vidéo ou par chat. Elle travaille comme vendeuse dans une boutique de vêtements. Elle me montre ce qu'elle fait. Elle reste très attentive, même de loin. Elle non plus, elle n'arrive pas à vivre sans nous. Elle nous demande toujours ce qu'on fait. Elle nous fait des blagues, elle essaie de nous faire rire. Ça nous fait un peu oublier notre tristesse. On prie Dieu pour que ça s'améliore un jour et qu'on soit réunis. Mais c'est dur de venir à l'école. J'essaie de me concentrer sur mes études, de bien travailler au lycée parce que je sais que ça lui fait plaisir. Elle est toujours contente quand j'ai une bonne note. En fait, elle veut qu'on travaille bien à l'école pour qu'on puisse décider de notre avenir.
La grand-mère de l'Ismaël, c'est Maria. Sa fille l'a prise de court quand elle a quitté le pays l'année dernière. S'occuper de ses petits-enfants n'est pas facile pour cette retraitée de 72 ans, surtout des deux petits de 6 et 8 ans.
Au début, la situation était tellement difficile à vivre pour les plus petits qu'ils sont tombés malades. Ils avaient de la fièvre, ils vomissaient et ils n'arrivaient pas à accepter la séparation. Et ils ont commencé à se renfermer, à laisser tomber l'école. Ils ne travaillaient plus et ils n'apprenaient plus rien. Ils sont même restés à la maison pendant 2 semaines. Pendant les coupures de courant, ils ont même dû chercher de l'eau dans le fleuve qui traversait la ville, car on n'en avait plus à la maison. Ça les a rendus encore plus malades. Puis vers la fin de l'année, ça allait un peu mieux. On les suit très près, mais ils n'ont plus envie d'étudier. Ils ont juste envie de rejoindre leur maman. Ils disent sans cesse que leur maman leur manque, que sa cuisine leur manque, qu'ils veulent dormir avec elle comme ils le faisaient avant. Alors je dis comme je le pense, ma fille n'aurait peut-être pas dû quitter le pays, car maintenant cela affecte directement ses enfants.
Mais le cas de cette famille n'est pas isolé dans cette école catholique. Quand les professeurs demandent combien d'enfants vivent sans leurs parents, plusieurs mains se lèvent dans chaque classe. Un vrai problème pour l'apprentissage des enfants, explique Dilcy Gonzalez, la coordinatrice de l'établissement.
Au niveau psychologique, ils sont très affectés. L'accompagnement des parents est fondamental dans le processus éducatif. On le voit tous les jours en ce moment. Il y a un changement radical lorsque les enfants sont abandonnés. Ils sont tristes, ils ne veulent plus venir à l'école. Certains enfants ne mangent plus à cause de ça, ils sont épuisés, ils ne suivent plus en classe. Et même si des membres de leur famille s'en occupent du mieux qu'ils peuvent, ce n'est pas pareil.
Pendant de nombreuses années, ce phénomène des enfants abandonnés a été nié par le gouvernement de Nicolas Maduro. Pourtant, les militants associatifs disent que les orphelinats inaccessibles à la presse sont pleins. Le phénomène prend tellement d'ampleur ici que des ONG ont commencé à le mesurer. Javier Salah Eva travaille comme psychologue dans une association qui intervient auprès de ses enfants pour éviter qu'ils ne se fassent recruter par des gangs de narcotrafic. Il a publié une étude en décembre dernier qui prouve que le nombre d'enfants abandonnés par leurs parents forcés de partir travailler à l'étranger a explosé ces dernières années.
On parle là, d'après nos estimations, de plus de 800 000 enfants abandonnés. On pense que plus de 3 millions de personnes ont déjà quitté le Venezuela. Donc, cela veut dire que près d'un quart des migrants ont laissé au moins un enfant sur place. Il y a un très grand sentiment d'abandon pour les enfants et les proches qui s'en occupent ne sont pas forcément prêts à assumer cette responsabilité. Les conséquences à court terme, ça peut être de l'agressivité par exemple. À moyen terme, ce sont les performances à l'école qui en pâtissent. Et à long terme, ils peuvent faire des dépressions chroniques et même éprouver des difficultés à établir des relations. Alors parfois, certains parents rentrent au Venezuela si ça n'a pas marché pour eux à l'étranger ou que leurs enfants leur manquent trop. Le mieux qui puisse arriver, c'est que des parents réussissent à l'étranger. Ils font alors venir leurs enfants et les familles sont de nouveau réunies. Mais avec 4 à 5 000 personnes qui fuient le pays chaque jour en ce moment, il est difficile de croire que ça va s'arranger.
L'association SECODAP, une autre ONG spécialisée elle aussi dans le suivi des enfants et des adolescents, va même plus loin. Elle estime qu'aujourd'hui au Venezuela, un ménage sur deux héberge au moins l'un de ses enfants abandonnés. Caracas, Mathieu Bock, Europe 1.
Voilà, terrible situation de ces enfants au Venezuela. Sans doute plus de 800 000 d'entre eux laissés par leurs parents. Bonjour Mathieu Bock.
Bonjour Sophie.
C'est un reportage que vous avez tourné il y a 2 semaines environ au Venezuela. Alors vous le disiez, hein, plus de 3 millions de Vénézuéliens se sont exilés, ont quitté leur pays. On aurait pu croire qu'avec l'offensive politique de l'opposant Juan Guaido en début d'année 2019, le flux des départs aurait diminué, mais non, il n'en est rien.
Non, au contraire, hein, ça s'accélère. Et c'est même l'ONU qui l'a confirmé cette semaine. On aurait pu croire à un ralentissement de ces exodes après l'espoir suscité par Guaido quand il s'est autoproclamé président en janvier dernier. Mais 4 mois après, beaucoup de Vénézuéliens sont déçus. Ils lui reprochent de n'avoir rien fait et de n'enchaîner que des beaux discours et des déclarations d'intention. Mais il faut rappeler que justement Guaido n'est pas au pouvoir. Son appel au soulèvement militaire le 30 avril dernier a été un fiasco, probablement mal préparé ou en tout cas finement désamorcé par le clan Maduro. Alors petite précision par rapport au reportage que l'on vient d'écouter. L'ONU a annoncé que près d'1,5 million de Vénézuéliens avaient reçu un visa, alors que ce soit humanitaire ou de travail, dans les pays voisins du Venezuela. L'ONU a donc demandé à ces pays de faire preuve de clémence avec ces réfugiés et de ne pas les renvoyer dans leur pays, même s'ils étaient en situation régulière.
Le blocage politique, Mathieu, reste total. Et même Lundi dernier, l'Assemblée constituante a voté la prolongation de son propre mandat. Vous nous rappelez d'où sort cette Assemblée constituante ?
La constituante, c'est une sorte d'Assemblée nationale parallèle acquise à Nicolas Maduro, qui a été élu en juillet 2017, malgré un boycott massif de l'opposition, après des émeutes qui avaient fait 125 morts à l'époque. C'est d'ailleurs assez étrange quand j'y étais, car on voit les deux assemblées qui cohabitent dans le même bâtiment. Les députés se croisent dans les couloirs comme si de rien n'était. Cette constituante permet donc au président de contourner la première assemblée, dont Juan Guaido est le président. Ouais. Le pouvoir exécutif peut donc agir comme si son action était démocratique. Mmh. Il a ainsi levé l'immunité parlementaire de 14 députés qui ont soutenu Juan Guaido. Mmh. Certains ont été emprisonnés, se cachent ou ont fui le pays. Certains ont trouvé le refuge également dans des ambassades de pays qui ont reconnu Juan Guaido comme président.
On parle de négociations ces derniers jours en Norvège, qu'en est-il ?
Oui, dans les jours qui viennent, les deux camps vont envoyer des émissaires à Oslo. Alors cela avait déjà été le cas il y a deux semaines, mais les représentants de Maduro et Guaido s'étaient soigneusement évités. Ils avaient simplement rencontré des médiateurs norvégiens. Là, ils se retrouveront en face à face, ces négociateurs, une première depuis le début de cette crise politique qui dure depuis la fin du mois de janvier.
Et pendant ce temps-là, Nicolas Maduro parle d'organiser des élections anticipées. Toute diversion est bonne à prendre. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir parlé de ses enfants séparés de leurs parents. Et à très bientôt dans les carnets.
À bientôt Sophie.
Europe 1.
Dans un instant, je vais vous parler d'une révolte qui monte. Elle a un joli nom, la révolte des fleurs. Ça se passe au Japon et ce sont les femmes qui montent au créneau.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h41, c'est au Japon qu'on file à présent. Toujours avec vous, Sophie Larmoyer. Le Japon, un pays où les femmes se mobilisent pour changer le système judiciaire.
C'est très inhabituel au pays du soleil levant. Depuis le début du mois, les Japonaises descendent dans la rue. Les rassemblements se multiplient dans tout le pays. On appelle ce mouvement la révolte des fleurs parce que les femmes y vont toutes avec un bouquet de fleurs à la main ou en portant des vêtements à fleurs. Bonjour Bernard Delattre.
Bonjour Sophie.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tokyo. Cette révolte des fleurs, c'est une manière pour les Japonaises de protester contre la clémence, voire l'impunité dont bénéficient beaucoup de criminels sexuels au Japon.
Oui, et ce qui a motivé leur mouvement, ce sont plusieurs verdicts successifs de procès de criminels sexuels. Je vous donne deux exemples. Un père a été acquitté du viol de sa fille car les magistrats ont estimé qu'elle était en mesure de lui résister physiquement. Il ne l'a pas assez fait, selon eux, donc un doute planerait sur le fait qu'elle n'était pas consentante. Et une femme a échoué à faire condamner son violeur car, au moment des faits, elle était en état d'ébriété avancée. Donc, d'après le jugement, elle n'a pas signifié assez clairement à son agresseur qu'elle refusait ce rapport sexuel. De tels verdicts ne passent pas du tout auprès de beaucoup de Japonaises, comme ces femmes qui, la semaine dernière, ont tenu une manifestation des fleurs devant la gare centrale de Tokyo.
Nous éprouvons toutes la même douleur et nous partageons la même colère. Des millions de femmes ne peuvent pas être présentes ici ce soir, mais soyez sûrs qu'elles aussi veulent en finir avec ce système judiciaire scandaleux. Donc elles nous soutiennent du fond du cœur.
Ces jugements cléments envers des criminels sexuels sont insupportables. Ils disent aussi des choses sur notre société et sur la place accordée aux femmes victimes. Elles se heurtent à un véritable mur qui les condamne à l'invisibilité au point qu'elles n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Mais enfin, ça va durer combien de temps comme ça ?
Bernard, ces rassemblements, ce ne sont pas seulement des manifs. Hein. Certaines victimes y prennent la parole, comme on l'entend.
Oui, oui. Et pourtant, vous savez, Sophie, combien on parle peu à la première personne ici au Japon. C'est souvent mal vu, considéré comme se mettre en avant. Mais là, signe de leur ras-le-bol, elles témoignent du calvaire qu'elles ont vécu, mais aussi de ce que c'est au quotidien que d'être une femme ici, dans ce Japon qui est encore une société très patriarcale.
À l'âge de 8 ans, j'ai été agressée sexuellement. Je me souviens bien de ce que j'ai ressenti. J'étais pétrifiée de terreur. J'avais la sensation qu'on m'enfonçait un couteau en plein cœur. Aujourd'hui, je suis anéantie de voir que des femmes qui ont subi la même chose que moi ne sont même pas reconnues comme victimes. Et puis tout au long de ma vie de femme, comme vous toutes, j'ai subi des réflexions déplacées, des propos salaces, des commentaires misogynes et méprisants, à longueur de journée, à l'école, au travail, dans la rue, dans les transports publics, dans les bars, à la télévision et même à la maison. Ça m'a toujours effarée.
Dans ces rassemblements, Sophie, on croit souvent Jun Yamamoto. Elle dirige une association d'aide aux victimes de crimes sexuels.
Moi, j'ai été agressée par mon propre père à partir de l'âge de 13 ans et ça a duré pendant 7 ans. J'ai été tellement traumatisée qu'après ça, il m'a fallu 23 ans pour enfin réussir à en parler à quelqu'un.
Donc vous pensez bien que, comme vous toutes, des jugements pareils, cela m'écœure. Ces femmes qui ne sont pas reconnues comme victimes vivent ce déni de justice comme une deuxième agression. Nous devons toutes les soutenir et nous mobiliser pour mettre fin à l'impunité dont bénéficient tant d'agresseurs sexuels dans ce pays.
Bernard, je voudrais que vous nous expliquiez un peu cette clémence judiciaire dont bénéficient les criminels sexuels au Japon. Récemment, avec l'affaire Carlos Ghosn, on a plutôt, nous, découvert une justice nippone extrêmement sévère. Comment explique-t-on un tel décalage ?
C'est vrai que le code pénal japonais est vraiment à deux vitesses. Il est extrêmement sévère pour des infractions comme les malversations financières, par exemple, ou même pour les petits délits. Ouais. Ici, chaparder dans les magasins peut vous conduire en prison pendant de longs mois en cas de récidive. Mais d'un autre côté, le droit nippon s'illustre parfois par une clémence assez sidérante. Figurez-vous qu'au Japon, pendant des siècles, le viol a été moins sévèrement puni qu'un simple vol, 3 ans de prison seulement. Ce n'est qu'en 2017 que la peine planchée a été portée à 5 ans. Mais c'est rien, 5 ans. En France, un viol est passible de 15 ans de détention. Et puis, dans les faits, 8 criminels sexuels sur 10 écopent de peines inférieures à 3 ans ici. Et pire, les primo-agresseurs bénéficient souvent d'un sursis.
Ah oui, comme si c'était moins grave la première fois, c'est ça ?
Exactement. Et pour ne rien arranger, il suffit qu'un agresseur sexuel conclue a posteriori un accord à l'amiable avec sa victime pour que l'action pénale s'éteigne automatiquement. C'est arrivé il y a 2 ans dans la ville de Yokohama. Le parquet n'a pas poursuivi 6 jeunes qui avaient commis un viol en réunion. 6 jeunes de très bonne famille. Leurs parents ont allongé des dizaines de millions de yens, ont donc acheté la compréhension entre guillemets de la victime, et les jeunes ont été remis en liberté. Mais en France, les auteurs du viol collectif peuvent prendre jusqu'à 20 ans de prison. Autre problème au Japon, très souvent, les juges considèrent que pour qu'il y ait eu viol, il faut que la victime ait vraiment résisté physiquement et de toutes ses forces à son agresseur. Eh bien ça, l'activiste Jun Yamamoto veut que ça change.
J'ai moi-même vécu ça pendant toutes ces années où mon père m'a agressé sexuellement. Beaucoup de femmes ne sont pas en mesure de s'opposer de toute leur force à leur agresseur. D'abord, elles n'en ont pas forcément les moyens physiquement. Et puis, elles peuvent être totalement sous leur emprise. Ou alors être en état de choc, complètement tétanisé. Mais cette absence de réaction violente de leur part ne signifie en rien qu'elles consentent à ce qui reste un viol. Cela ne doit jamais permettre à son auteur d'échapper à des poursuites. Que le code pénal dise le contraire, eh bien selon moi, ça pose un énorme problème de société. Il faut donc que ce code soit révisé.
J'imagine, Bernard, qu'il y a très peu de japonaises victimes de crises sexuelles qui osent témoigner publiquement comme ça.
Oui, très peu. D'ailleurs, selon les enquêtes, les 3/4 des victimes de viol gardent tout pour elles. Elles ne parlent absolument à personne de ce qui leur est arrivé. Et tenez-vous bien, seuls 4% des femmes violées portent plainte contre leur agresseur.
Alors, en France, on dit que c'est 10%, ce qui n'est déjà pas énorme, mais 4%. Pourquoi si peu, Bernard ? C'est culturel ?
Oui, en partie. Et ça remonte loin. Il existe un concept de l'ère Edo au XVIIe siècle, donc c'est le Nakineiri. Dans ce terme, on retrouve les idéogrammes des larmes et du fait de dormir. C'est le conseil qu'à l'époque déjà, on donnait aux femmes victimes de violences sexuelles. Noyer leur chagrin en silence, dans une nuit de larmes, puis le lendemain, tourner la page et passer à autre chose.
On est très loin de la quête de justice.
Oui, mais vous savez, plus généralement, le droit nippon fait la part belle aux hommes par rapport aux femmes. Dans le code civil, on trouve des choses qui seraient inimaginables en Occident. Par exemple, les japonaises mariées ne peuvent plus utiliser leur nom de jeune fille. Et celles qui finalement divorcent doivent attendre 3 mois avant d'être autorisées à se remarier. Pour éviter les conflits sur la paternité des enfants qui naîtraient après ce divorce. D'ailleurs, une femme séparée de son mari sans en être divorcée, si elle a un enfant avec un nouveau compagnon, eh bien ce bébé est d'office considéré comme étant celui de son ex. Le père biologique ne peut pas le déclarer sous son nom à l'état civil.
Tout ça n'incite pas à aller devant un tribunal quand on est une femme.
D'autant qu'aujourd'hui encore, au Japon, 80% des juges, des procureurs et des avocats sont des hommes. Et donc beaucoup de victimes de viol, à qui tous ces jugements cléments n'ont pas échappé, ne se font aucune illusion sur l'issue de la plainte qu'elles déposeraient. En plus, il faut bien comprendre que pour ces femmes, réclamer justice impose de remuer ciel et terre. Une jeune journaliste est bien placée pour en parler. Shiori Ito, c'est son nom, a accusé un confrère très connu de l'avoir violée en 2015. Shiori Ito, c'est son nom, a accusé un confrère très connu de l'avoir violée en 2015. Un éditorialiste politique d'une grande chaîne de télévision et proche du Premier ministre Shinzo Abe. Elle n'a jamais réussi à le faire juger et condamner. Elle, en revanche, a vécu un enfer.
La vérité, c'est qu'au Japon, la prise en charge et le suivi judiciaire des victimes de crimes sexuels sont déficients. Parce que la société elle-même n'est pas prête à nous accepter et nous soutenir. J'ai demandé de l'aide partout, dans les hôpitaux, au centre d'aide aux victimes, auprès de la police, mais aucun ne m'a aidée.
La police ne m'a même pas laissé porter plainte. Ils m'ont dit que si je le faisais, je perdrais mon travail de journaliste, je ne retrouverais plus jamais d'emploi dans ce secteur et que ma vie serait finie. Ça a été le début du long cauchemar que je vis jusqu'à aujourd'hui.
Après avoir osé témoigner, Shirley Ito a été traînée dans la boue sur les réseaux sociaux et dans les médias. On l'a accusée d'affabuler, de chercher la reconnaissance médiatique, de vouloir éclabousser indirectement Shinzo Abe. On lui a reproché d'avoir sali son propre nom, d'avoir souillé l'honneur de sa famille. On l'a traité de prostituée aussi. On l'a même menacé de mort. Tout ça parce qu'elle a osé témoigner et réclamer en justice publiquement.
Avec ce tableau si sombre, Bernard, on comprend mieux l'impact et l'importance de la révolte des fleurs que mènent les Japonaises aujourd'hui.
Oui, les jours passent et cette révolte ne faiblit pas. Plusieurs grands rassemblements sont encore prévus le mois prochain. Ils ont du succès car les femmes mobilisent sous le mot d'ordre « with you », avec vous, et non pas « me too », moi aussi. Ça leur permet à la fois de contourner la difficulté du discours à la première personne et d'y associer de nombreuses femmes par solidarité. On commence même à voir des hommes dans ces rassemblements de femmes. Et le mouvement a conquis l'opinion. Selon un sondage, 86% des Japonais réclament que la justice soit plus sévère envers les criminels sexuels.
Ah, le pouvoir des fleurs.
Le pouvoir des fleurs, jasmin, lila, c'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça, changer le monde, changer.
Voilà, changer le monde avec des bouquets de fleurs. Quel beau programme chanté par Laurent Voulzy. Merci Bernard pour ce coup de projecteur sur cette révolte des fleurs que vit le Japon en ce moment. À très bientôt dans les carnets.
Merci à vous Sophie, à bientôt.
Europe 1.
Et c'est Joseph Chovanec qui nous rejoint dans un instant, inspiré par la bande dessinée aujourd'hui.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
T'as vu, nos voisins ont été cambriolés. Tu connais un réseau de serrurerie agréé pour nous poser une porte blindée ?
Point Fort Fichet. Et jusqu'au 1er juin, c'est le mois de la sécurité dans les 220 magasins Point Fort Fichet. Regarde, on peut profiter de remises jusqu'à 700 euros sur les portes blindées fichées.
Porte, fenêtre, garage, volet, alarme. On va sécuriser toute la maison ? C'est parfait.
Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com.
Point Fort Fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Europe 1, les carnets du monde.
13h51, Sophie Larmoyer, on reste ensemble encore quelques minutes. C'est le moment de retrouver Joseph Chovanec, toujours là avec nous le dimanche, pour nous permettre de faire un petit voyage en Autistan.
L'Autistan, c'est une manière de regarder le monde autrement. Grâce à vous, Joseph, qui faites le guide pour nous. Bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Pas besoin forcément d'aller très loin pour regarder le monde autrement. Bruxelles, par exemple.
Oui Sophie, l'autre jour, j'étais à nouveau à Bruxelles. Rien de spécial en apparence. J'y suis allé des dizaines et des dizaines de fois. J'ai fait le tour des lieux, entre guillemets, touristiques. Ouais. Vous savez, là où il y a une foule absolument immense. Hein. Mais il est temps de trahir un secret fondamental. La règle de base quand on voyage, c'est de toujours suivre les conseils des gens de chez nous. Hein, j'allais dire bizarre.
Alors, quel serait le conseil, en l'occurrence, pour Bruxelles ?
Mais mes amis autistes m'avaient dit que l'un de leurs lieux préférés, c'était le centre belge de la bande dessinée. J'étais dubitatif. Après tout, Sophie, je n'y connais rien à la BD. Hein, me suis-je dit, bon, autant risquer le tout pour le tout, hein, et y aller. En arrivant dans la petite rue du centre belge de la BD, bon signe, il n'y avait quasiment personne. Et mieux encore, un bonhomme étrange attendait seul l'ouverture du musée devant la porte. En le regardant, j'ai cru comprendre qu'il était autiste. Il ressemblait un peu d'ailleurs à un personnage de bande dessinée lui-même. Du coup, j'avais hâte d'entrer à mon tour dans la tanière. Et c'est là que j'ai eu mon moment eureka. J'ai compris que j'étais bien chez les autistes.
Alors, quels indices vous ont fait penser ça ?
Mais à l'entrée, Sophie, on vous explique l'origine de la BD, à savoir les monastères, où il y avait des moines copistes qui étaient également des penseurs visuels et reformulaient en BD les textes qu'ils copiaient. Mais moines copistes, c'est clairement un métier d'autiste. Et puis, il y a toute l'histoire de la BD avec les gaffes qui la fondent. Quand on mélange les langues, découpe mal les mots, comme ça m'arrivait souvent dans mon enfance, parfois, on crée de nouveaux horizons. Un exemple très célèbre, le nom du compositeur Mozart, par exemple, peut être compris comme Mausart, hein, M-A-U-S-A-R-T, donc en allemand littéralement qui relève de l'espèce des souris, hein, en traduction littérale. D'accord. C'est ainsi qu'un immense créateur de BD, Gradimir Smudja, a fait naître tout un univers autour d'un Mozart musicien souris. Hein. Et souvent dans la BD, comme ça, il y a des fantômes de l'allemand, en particulier en Belgique. Par exemple, l'étrange mot pour pour dire chaussette.
C'est pas dit socque ?
Mais Sophie, il y a un autre mot que tous les francophones connaissent sans le savoir, un schtroumpf. Hein. Les schtroumpfs ont un monde bien à eux, évidemment, au centre belge de la BD. C'est là que l'on comprend que pour les vrais passionnés, évidemment, en tête un Peyot hein, qui leur a consacré sa vie, les schtroumpfs sont un monde parallèle hein, avec des artefacts qu'on peut admirer dans les vitrines, comme par exemple la cage aux schtroumpfs hein, en bois où Gargamel essayait de les enfermer. Ou encore des instruments de musique de la schtroumpfonie. Hein. C'est le même principe que Harry Potter ou l'Autistan. Le village schtroumpf n'est pas très loin, hein, mais certains y accèdent aisément, tandis que d'autres, Gargamel en tête, n'y parviendront jamais.
Ce sont des mondes parallèles, des mondes cachés.
Oui, un peu dans le même genre, je repense aux chambres mortuaires des pharaons. Pendant mes séjours d'études en Égypte, je m'étais souvent demandé quelle étrange tournure d'esprit poussait les meilleurs artistes de l'ancien monde à orner de leurs œuvres, non pas, mettons, les murs visibles des maisons hein, ou des palais, mais des cryptes que personne ne devait voir. Hein. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'autistes dans les fameux villages des artistes à l'époque pharaonique, coupés du monde dans le désert. Il faut apprendre à explorer en quelque sorte les secrets des bulles. Un peu comme les vrais amateurs de bande dessinée ne lisent pas les bulles, pardon, phylactères, mais cherchent les messages codés hein, dans ces images.
L'essentiel est invisible pour les yeux, disait le renard de Saint-Ex.
Oui, tout est affaire de cœur, nous le savons. Ouais. Nous l'avons entendu bien des fois, mais je crois qu'il suffit de mieux regarder. Comme le disait Peyot, ensuite, pour tout le reste, c'est l'expérience qui schtroumpfe.
Voilà, c'est ça. Et nous, on n'a plus qu'à re-schtroumpfer à Bruxelles pour aiguiser notre nouveau regard. Merci beaucoup, Joseph.
Merci, Sophie. Bonne balade bruxelloise.
Europe 1.
Et voilà, on est arrivé au bout de ce chapitre. C'est le moment de refermer les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés. Vous le savez, vous pouvez réécouter l'émission quand vous voulez sur europe1.fr. Merci à Julien Blanc, à la réalisation, à Hélène Terzian qui m'a aidé à produire ces carnets. Rendez-vous dimanche prochain, 13h, pour de nouvelles aventures. C'est Nicolas Carreau qui écrira ce prochain chapitre avec vous. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien.